C'est Marc Haussmann et moi qui animons cet atelier, comme vous l'avez vu. Dans le cadre de la prière du disciple, c'est assez banal pour le sujet, pour le titre, je veux dire. On a trouvé un peu autre chose. On a mis l'Éternel devant qui je me tiens, je veux dire, la croix que j'aveux. On n'est pas, enfin, moi, en tout cas moi, j'aime la prière, mais je ne suis pas forcément un fortiche de la prière pour autant. Hein. Je crois qu'on a un peu tous les mêmes problèmes, donc. Ce que je vais dire, je le dis à moi-même en premier, parce que je crois qu'on a tellement à progresser, d'ailleurs on l'a entendu tout à l'heure dans ces messages, où on est constamment exhorté à revenir au centre, au Seigneur, puis c'est vrai, c'est ça la clé, et évidemment que la prière est spécialement concernée dans ce domaine-là. Alors on va dédier peut-être en trois parties, on a à peu près une heure. Je vais prendre un quart d'heure, 20 minutes peut-être maintenant pour expliquer un certain nombre de principes qui sont relativement simples, mais vous pouvez quand même interrompre éventuellement s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ensuite, Marc va prendre la suite sur plus spécialement l'écoute, la façon d'écouter. Et puis ensuite, on aurait encore 20 minutes en principe où on peut parler, je dirais, où ça serait bien que vous interveniez, qu'on réponde et qu'on essaye de chercher ensemble, voire même si on a le temps de prier les uns pour les autres. On ne s'est pas présenté, je pense qu'on ne va pas perdre du temps des présentations. Salut Cédric, je t'ai encore pas salué. Voilà. Alors, on l'a intitulé « L'Éternel devant qui je me tiens ». On aurait pu ajouter aussi un autre texte « Il m'a ouvert l'oreille pour que je sache écouter comme écoute des disciples ». La première citation, l'Éternel devant qui je me tiens, on la trouve spécialement dans à propos d'Élie. C'est quasiment la seule chose qu'on sait de lui, à part qu'il était du village de Tishba. Mais c'est dit d'emblée comme ça, tout de suite, Élie. Il s'adresse à Acab, l'Éternel devant qui je me tiens. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. C'est culotté, apparemment. Et puis, on retrouve cette expression à propos d'Élisée, dans 2 Rois 3, verset 14, et puis encore un autre texte, mais je ne vais pas les énumérer. Il emploie exactement la même expression. Et puis, alors, la deuxième citation, « Il m'a ouvert l'oreille pour que je sache écouter », c'est Ésaïe 50, verset 4, « pour que je... Il m'a donné une langue exercée pour que je sache porter secours à celui qui est abattu ». Puis après, il m'a ouvert l'oreille pour que je sache entendre comme entendent des disciples, et je ne me suis pas retiré en arrière quand ça s'est fait. J'aimerais juste introduire avec Élisée, parce que je trouve très intéressant, plutôt que de parler de la prière un peu dans l'abstrait, de partir d'un ministère. Je ne sais pas quel effet ça vous fait, le ministère d'homme de Dieu, comme ça. Est-ce qu'il y en a une place?
Ouais,
peut-être à côté là.
Ah oui, tout de suite. Ça vient se décaler un peu comme chose ici.
Ok, bonjour.
Bonjour.
De toute façon, je te mets là, je dois me mettre dans le.
Si tu veux. Salut Didier.
Salut.
Attends, je crois que. Il y a peut-être une
petite chose. Je crois que tu seras.
Ça va?
Ça va si tu t'assieds?
Sur les escaliers.
Je continue pour qu'on ne perde pas trop de temps.
Oui, on va parce que j'ai que la route.
Et avant, on va quand même. On va pas parler sur la prière. Comment ?
C'est la dernière numéro.
5.
5. 5. Excusez-moi. C'est pas celui-là.
C'est pas que je vous aime pas.
Ah non, d'accord.
Allez, tout à l'heure.
C'est bon.
C'est bon.
On y est.
C'est pas facile d'écouter. Hein.
Bonjour. On va prier. C'est vrai, Seigneur. On veut pas parler sur la prière, mais on aimerait encore mieux prier. Et que nos échanges de paroles soient eux-mêmes le fruit d'un échange avec toi. D'un échange peut-être tacite au départ, mais nous l'invoquons, nous faisons appel précisément et volontairement, consciemment. Seigneur, merci d'habiter maintenant
notre réunion et de nous aider les uns et les autres dans cette communion avec toi qui va permettre des libérations de ministères beaucoup plus efficaces. Nous l'espérons, nous le voulons, nous le demandons, Seigneur. Moi le premier, au nom de Jésus ton Fils. Amen.
Amen.
Amen. C'est vrai que quand on regarde, moi j'étais frappé il y a quelques mois en étudiant un petit peu la ville d'Élysée, qui est passionnante. C'est pas simplement parce qu'il y a des miracles. C'est vrai que Élysée, c'est quasiment les seuls prophètes, à part une fois Isaïe, il y a évidemment Moïse, où il y a eu des interventions miraculeuses. C'est pas à cause de ça d'abord, mais ce sont des gens qui ont réussi à la fois à influencer, surtout Élie, sa nation, son peuple, de manière décisive, en tout cas pour un temps, de ramener ce peuple pour un temps au culte de Yahvé. Et puis, Élisée, sur un plan personnel, il a joué un rôle extrêmement bénéfique. Quel a été leur secret, au fond, ces gens? Bien sûr, on peut dire ça de Jérémie, on peut dire ça d'Ésaïe aussi. Enfin, là, j'ai pris ces deux exemples parce que, justement, et là, j'aimerais insister surtout dans le message que je donne maintenant, sur cette première partie, je crois que il y a une parole qui est donnée dans la recension de leur ministère, c'est justement cette parole qu'on traduit parfois dans la seconde, par exemple, traditionnelle, on dit l'Éternel dont je suis le serviteur, mais ce n'est pas la traduction littérale, c'est presque un peu édulcoré. L'Éternel devant qui je me tiens. Moi, j'aime bien ça parce que c'est dynamique, c'est vraiment le Seigneur qui est là, et ces hommes de Dieu, on ne nous le raconte pas, mais ils ont dû passer des années à se tenir devant le Seigneur avant probablement d'ouvrir la bouche, quoi. Avant de déclarer une parole et avant d'engendrer ou de produire par la puissance de Dieu des effets. Et c'est la seule carte d'identité qu'on a, surtout pour Élie, on n'a rien d'autre. On ne sait pas d'où il sort, oui, on sait le village, mais c'est tout. Et Élisée, on en sait un tout petit peu plus, mais c'est vraiment, on peut dire, la caractéristique de leur ministère. Et les effets sont extraordinaires. Et je me disais qu'au fond, aujourd'hui, on a rudement besoin de retrouver, je crois que Dieu veut redonner à l'Église des sortes d'Élie et des Élisées, parce qu'il est dit que dans les derniers temps, il redonnera l'esprit d'Élie pour réconcilier, pour amener les pères à leurs enfants, les enfants à leurs pères, mais aussi pour produire le corps d'esprit et la même force dans le ministère. Et puis alors, il faut dire quand même une deuxième chose, qui a peut-être moins très directement à la prière, c'est la deuxième face du secret d'un Élisée, c'est que non seulement il se tenait devant Dieu, mais il est dit quand il rencontrait des gens qui avaient des besoins, comme la veuve qui devait vendre ses enfants comme esclave parce qu'elle ne pouvait plus rembourser ses dettes, elle venait de perdre son mari, ou bien la femme de distinction, un petit peu placée, la Sulamite, quand il rencontre des besoins, il pose la question, par exemple, à cette veuve, que puis-je faire pour toi? Ça, c'est extraordinaire aussi. Je crois que c'est les deux faces qu'on ne devrait jamais séparer. Il ne faudrait jamais dire, la prière, c'est juste parler à Dieu, mais l'autre question, que puis-je faire pour toi, ça fait partie, peut-être pas du sujet de la prière, mais on ne devrait jamais la séparer. Moi, je trouve extraordinaire que dans le cas de ces deux femmes, la femme Sulamite, elle ne revendiquait rien, elle n'avait pas de besoin apparemment, elle disait non, ça va. Mais il devine finalement, grâce à son serviteur Géasi, qu'elle n'a pas d'enfant et que c'est un problème caché dans sa vie, dont elle n'ose pas parler. Eh bien, il dit à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre son problème? Et je crois que avoir ces deux dimensions, se tenir devant le Seigneur, et quand on rencontre des gens, oser poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne, ou si la personne s'adresse à nous, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ton problème? C'est une question qui nous fait peur, parce qu'évidemment, on se dit, si je commence à donner le petit doigt, hein, c'est tout le bras qui va y passer, puis où est-ce que ça va m'entraîner? Puis de toute façon, je n'ai pas les moyens. Mais justement, la foi, c'est pas quand on peut faire les choses, c'est quand on ne peut pas les faire. Sinon, il n'y a pas besoin de foi. Hein, on peut adhérer à un corps de doctrine, d'accord, par la foi, parce qu'on a peut-être eu un peu de révélation là-dessus, mais La foi, elle commence surtout quand on ne peut plus. Et c'est là que la conjonction de ces deux choses, se tenir devant Dieu, et ça implique que ça dure longtemps, au moins en tout cas dans l'existence au fil des années, et prendre en compte les besoins des gens, la conjonction de ces deux dimensions, moi je pense que c'est la clé quand même pour voir une nouvelle dimension dans l'Église. Alors évidemment, Jésus, lui, il a vécu ces deux dimensions d'une manière encore beaucoup plus forte, de manière, on peut dire, absolue, parfaite dans sa qualité, parce qu'il joignait totalement ces deux choses. Alors la question qu'il faut se poser, moi je crois, je pense que vous êtes venus un peu pour ça, pourquoi, enfin, je pense que vous êtes tous convaincus de la nécessité de prier, je pense que ça ne fait pas un pli ici, ou bien que, pourquoi, d'abord, est-ce qu'on prie si peu? Ben, je pense que vous êtes tous d'accord à vous lamenter et à vous dire, mais je devrais prier plus finalement, pourquoi je ne le fais pas plus? Et puis quand je le fais, pourquoi il n'y a pas plus d'effet? Parce que s'il y avait des effets à tous les coups, ça serait le réveil en Suisse, je pense. Alors, bien sûr, on pourrait invoquer certaines raisons extérieures, comme par exemple qu'on est conditionné par une civilisation matérialiste qui fait que bon, ben, on n'est pas porté sur les choses spirituelles dès que ça échappe à notre intelligence, à notre vision, on perd vite pied, on arrête. On a aussi une culture de l'immédiate, on veut que les choses arrivent tout de suite, on tourne au robinet, l'eau coule, et dans le monde spirituel, ben, ça ne se passe pas comme ça, il faut du temps. On est marqué par peut-être un manque d'expérience, alors un manque de connaissances expérimentales, ça c'est possible. Moi je rencontre quand même beaucoup de chrétiens, même évangéliques, qui n'ont pas forcément une connaissance expérimentale de l'Esprit de Dieu. Ça arrive plus souvent que je suis étonné, parfois je me dis, mais c'est comme si ça restait une idéologie, quoi. Peut-être la meilleure, celle qu'on met tout en haut, mais ça reste une idéologie, et pas forcément une expérience de cœur à cœur. Je ne suis pas un partisan forcément de la théologie d'expérience, où il faudrait tout baser sur l'expérience. J'ai lu Barthes et d'autres, je sais qu'il ne faut pas être comme ça, mais n'empêche que s'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas non plus de vie de l'esprit. Et ça, c'est quand même assez. Ça peut nous freiner énormément dans la prière. Il y a aussi peut-être la paresse. Alors, ça, il faut quand même l'avouer parfois, hein, parce que si la prière est un repos, c'est aussi une lutte, c'est aussi un combat. Et on hésite parfois, peut-être, on recule devant le fait de s'y mettre vraiment. D'autant plus que l'avantage, il n'est pas forcément immédiat, on ne voit pas tout de suite le résultat de cette lutte. Alors peut-être aussi qu'on craint les conséquences de notre prière, parce que on se dit, si je prie le Seigneur et qu'il se met à me répondre réellement, il faudra que je le fasse. Et j'ai pas forcément envie de livrer ma vie de manière inconditionnelle pour lui dire, Seigneur, quoi que tu veux, comme tu veux, sans condition, je fais. Ça peut, honnêtement, moi ça m'est arrivé parfois de craindre ça. Mais tout ça, évidemment que ce sont des mauvaises raisons, ce sont peut-être des choses qui peuvent expliquer des déficiences de prière, mais ce n'est pas des vraies raisons. Puis j'aimerais dire aussi, vis-à-vis de ceux qui disent, oui, mais Élie, Élisée, c'était quand même spécial, c'est des hommes de Dieu, c'est des prophètes, mais on n'est pas... C'est pas vrai. Au contraire, on a une position meilleure que ces gens-là, parce que ces gens, ils étaient dans l'Ancienne Alliance. Alors certes, l'Esprit de Dieu agissait, mais ils agissaient à côté d'eux. L'Esprit de Dieu n'était pas en eux, je crois qu'on peut dire ça. Dans les gens de l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu n'était pas en eux, parce que pour avoir l'Esprit de Dieu en soi, il faut que notre esprit soit régénéré. Et Ézéchiel 36 dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, et je mettrai en vous mon esprit. Il ne peut pas mettre son esprit de manière permanente dans un cœur irrégénéré qui est encore dans l'Ancien Régime, qui est encore marqué par le péché. Il faut que la vie de Christ, le sacrifice de Jésus, la croix, l'efficacité de la rédemption, aille passer par là. Alors je pense qu'évidemment nous sommes déjà tous convaincus de ça et que c'est fait. Donc si c'est fait, l'Esprit Saint habite en nous Et j'ai beau être de tendance pentecôtiste, je suis parfaitement d'accord de dire que dès la conversion, le Saint-Esprit habite en nous. Il faut qu'on ait aucun doute là-dessus. Du moment qu'on est né de Dieu, l'Esprit Saint est venu s'installer en nous dans une instance de l'être humain qui s'appelle l'Esprit, qu'on pourrait aussi appeler cœur, parce que, bibliquement, une partie des citations qu'on pourrait dire pour le cœur s'applique aussi à l'esprit, mais qu'il ne faut pas confondre avec l'âme. Pour moi, c'est deux instances de l'homme qu'il ne faut pas les séparer, mais ce n'est pas la même chose. L'âme, c'est notre personnalité, elle doit être conquise, elle est charnelle au départ, elle doit devenir spirituelle à force de fréquenter le Seigneur. Mais il y a une chose quand même en nous qui peut devenir spirituelle à la seconde, dès qu'on se tourne vers Jésus, c'est la régénération de notre esprit, ou de notre cœur qui devient spirituel, qui se réveille. À ce moment-là, l'Esprit Saint entre en nous, et c'est scellé. C'est scellé. Moi, j'ai lu un livre de Andrew Murray, il n'y a pas très longtemps, qui m'a fortement rassuré de ce côté-là aussi. Il y a quelque chose qui est parfait en nous. C'est justement notre esprit régénéré. Ça, c'est parfait. Il faut juste veiller qu'il reste bien dans le Seigneur. Mais il est parfait d'emblée. Donc, ça, c'est quelque chose...
Accompli.
Oui, bien sûr, il n'est peut-être pas au bout de sa progression.
Parce qu'il y a des connotations de parfait.
Oui. Mais au sens où Jésus le dit. Parce que quand Jésus dit « Soyez parfait, que votre Père Céleste est parfait », il ne veut pas dire « Soyez au top de ce que vous pourriez être ». Il veut dire « Avancez ». Mais dans le domaine spirituel, il y a quelque chose en nous qui est d'emblée acquis au Seigneur. Donc on a une base de prière qui est extraordinairement sûre. Et ça devrait pouvoir nous rassurer, ça. Ce qui ne veut pas dire que... Alors on a tout le travail de sanctification qui consiste à gagner notre âme, et même notre corps jusqu'à un certain point. Je crois qu'on doit travailler à ce que notre âme, c'est-à-dire la volonté, l'intelligence, les émotions, les sentiments, tout ça, soit peu à peu gagné par cette influence qui vient de notre esprit. Bon, ça a l'air de nous éloigner un peu de la prière, mais je ne crois pas tellement, parce que finalement, ces hommes-là, ils avaient la puissance de Dieu avec eux, sur eux, et nous sommes aussi appelés dans la Nouvelle Alliance à vouloir cela, et les pentecôtistes ont surtout insisté sur cet aspect-là, en disant vous avez besoin d'expérimenter ces choses, et ils ont raison de dire ça. Mais en même temps, les évangéliques conservateurs qui vous disent « Oui, mais on a reçu l'Esprit Saint à la nouvelle naissance. » C'est vrai aussi. Alors, je dirais, nous ne pouvons pas dire, au fond, ces gens qui ont vécu des interventions puissantes de Dieu, étaient des privilégiés, tandis que pas nous. Au contraire, on a une meilleure position. On a une position plus privilégiée. Nous avons l'accès à la fois à l'Esprit en nous, ce que eux n'avaient pas, et on a accès à l'Esprit sur nous, qui est la terminologie qu'on trouve chez Luc, spécialement les Actes, mais aussi un peu dans certains prophètes, qui est le livre des Juges, qui nous revêt à certains moments de manifestation de puissance. Là, il ne faut pas les refuser. Et je crois que ça fait partie aussi de ce que nous pouvons demander dans la prière. Alors, je viens maintenant à des choses peut-être un peu plus pratiques. Au fond, la prière jaillit de la prière d'intercession, parce que c'est souvent dans l'intercession que ça bute et qu'on n'est pas satisfait. La prière d'intercession, qui a un aspect enthousiasmant et très fort de la prière, ça devrait naître de la prière d'adoration. Parce qu'une adoration véritable, elle va produire une libération de l'esprit. Normalement, il y a deux situations où il est assez facile de prier. C'est l'émerveillement, d'un côté, quand on est émerveillé par la création, par les petits-enfants, ou je ne sais pas, il y a des choses où la prière, elle jaillit facilement. Et puis l'autre pôle, c'est le tragique, le tragique grave, où on est saisi au trip parce qu'on va perdre la vie, ou quelqu'un d'autre qu'on aime va perdre la vie, ou court un grave danger. Là, on n'a pas trop de peine à prier. Mais là, ça, c'est quand même des situations qui ne sont pas les plus courantes dans la vie. Donc, on a besoin de quelque chose de plus permanent. Alors, cette prière plus permanente, elle est pauvre et faible, parce que souvent, nous ne réalisons pas qui nous prions. Alors, je dis peut-être des choses connues, mais ça doit régulièrement redevenir une sorte de révélation. Nous ne nous rendons pas compte qui est là. Nous sommes plus en présence du moi qui prie que de Dieu qu'on prie. Et nous sommes plus centrés sur cette pensée, ah oui, c'est vrai, je dois prier. Il faut que je prie si je veux être exaucé, ou il faut que je prie si je veux être en communion avec Dieu, ce qui est juste, bien entendu. Mais le piège, c'est de rester juste dans cette pensée-là, qui est encore une pensée qui nous centre un peu quand même sur notre ego, au lieu de bien réaliser qui est là et qui nous prions, qui est Dieu finalement. Moïse, quand il a été appelé sur le sommet du Sinaï, il a passé 7 jours sans rien dire. Bon, je ne dis pas qu'il faut faire passer 7 jours sans rien dire, mais pendant 7 jours, il n'a rien dit. Et au bout de 7 jours, Dieu lui a parlé et il a pu commencer à écrire les 10 paroles sur les tables de la loi. Oui, je regarde juste pour avoir le plan quand même un petit peu de ce que je veux dire. Alors, j'aimerais juste maintenant dire ceci. Quand on se met en prière le matin, parce que je crois que dès l'éveil, on devrait se mettre en position. Peut-être faire la toilette avant, éventuellement déjeuner pour ceux qui ne peuvent pas supporter de ne pas déjeuner tout de suite. Mais après, on devrait prendre un temps tranquille. Ça veut dire quoi un temps tranquille? Il n'y a pas d'horaire à donner, mais ça veut dire avant qu'il y ait tous les téléphones, avant qu'il y ait sonne à la porte, avant que les enfants soient levés si on en a des petits, etc. Un moment, et je pense que le début de la journée, c'est quand même l'idéal, parce que les prémices d'une chose, elles conditionnent la suite. Donc moi, je crois beaucoup à la prière du matin. Et bien entendu qu'on est appelé à prier, on peut très bien prier à midi, on peut prier le soir, quand on veut, n'importe quand. Et de choisir cette sorte de tranquillité, on fait taire les bruits. Mais le bruit le plus dangereux, ce n'est pas le bruit extérieur. Non, mais ça c'est encore autre chose, c'est pas grave. C'est le bruit intérieur. Ça, c'est terrible. Ça a été déjà dit un petit peu ce matin. Le bruit intérieur, ah oui, il faut que je... Il ne faut pas que j'oublie cette lettre. Ah oui, il faut que j'aille porter, il faut que j'aille voir. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Et quand on est dans le ministère, c'est difficile parce qu'on porte beaucoup de choses. Et là, moi-même, j'ai de la peine avec ça. De prendre un temps où on serait en silence devant Dieu et on essaye de réaliser qu'il est là. Quoi. On dira, mais qu'est-ce qui prouve qu'il est là? Oui, il est là. Il a rempli le monde. Il est là parce qu'il est venu. Il est venu en chair. Et s'il est venu en chair, c'est pour être présent maintenant à l'esprit dans le ministère céleste de Jésus. Donc, le Seigneur ne demande qu'une chose, c'est que nous nous ouvrions parce qu'il est là. Et puis, ça peut mettre peut-être un certain temps jusqu'à ce qu'on réalise cette chose-là. Et puis, en même temps, il faut décider de s'y mettre parce que ça ne va pas forcément venir tout de suite. À un moment donné... Ben voilà, on peut faire appel. Seigneur, tu connais ma faiblesse, tu sais où j'en suis. J'aurais envie de faire autre chose. Je suis peut-être un peu agité. Je me suis même peut-être un peu énervé contre ma femme avant même d'arriver ici. Alors je fais appel à toi. Dans ta grâce, j'ai pas d'autre appui. Prends-moi en main. Moi j'aime bien la parole de la prière de Jérémie dans Jérémie 17, là. Quand il dit « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Je trouve ça génial. C'est ça qu'il faut dire. Je ne peux pas faire plus, Seigneur. Je suis incapable, je suis pauvre. Je ne sais pas prier comme il faut. Mais toi, vas-y, prends-moi en main. Et alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a pris conscience que Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu vivant, le Dieu Jésus-Christ, le Père, est présent... Il est présent à la fois parce que dans sa majesté. Aujourd'hui, on a tendance à oublier ça. Dieu est majestueux. Dieu, on pourrait presque dire, il est redoutable. Il est un feu dévorant. Il ne faut pas l'oublier quand même. Mais en même temps, il est un père de tendresse. Et C'est tellement important de savoir qu'il y a un père de tendresse. Il y a encore beaucoup de culpabilité dans le peuple de Dieu. Je pense qu'il faut tenir ces deux réalités. Le Seigneur pourrait nous écraser à cause de nos péchés, dans sa sainteté, mais il ne le fait pas parce qu'il a fait une alliance, il nous aime, il a décidé de ne jamais renoncer avec nous. Si nous ne le renions pas définitivement et en face, il a décidé de ne jamais renoncer avec nous et il nous prend en main. Donc voilà qu'on entre dans un temps de confiance extraordinaire. Et puis je dirais, oui, il va se révéler même en nous. Il ne s'agit pas seulement de prendre conscience que Dieu est là, mais de prendre conscience qu'il est en moi. Et que quand on dit « il faut toucher le ciel » ou « il faut être dans le ciel », ben, le ciel, je dois le chercher finalement en moi. Pas à la manière des orientaux, pas du tout. Il est du New Age, parce que je n'ai rien en moi qui soit du ciel. Mais il est en moi, effectivement, c'est vrai. Donc si je veux avoir accès au monde céleste pour faire descendre sa volonté sur la terre, je vais me recueillir en moi-même. Et puis alors, ensuite, eh bien voilà, notre louange va jaillir, on va exprimer l'adoration de Dieu. Je crois que c'est bien de prier à haute voix, de l'exprimer à haute voix, parce qu'on a besoin de s'entendre soi-même. Et puis alors, je dirais, si c'est un peu difficile, eh bien persévérons et recourons à la prière par l'esprit. Moi, je crois alors à la vertu, peut-être tout le monde n'est pas convaincu ici, à la vertu de la prière en langue, parce que la prière en langue, c'est une des formes privilégiées de la prière par l'esprit. Et parfois, on ne sait pas comment prier. Eh bien, utilisons ce don, ceux qui y croient, ceux qui l'ont reçu. Et prions en langue. On peut même prier en langue une heure sans se fatiguer. Et il y a des gens qui vous disent que leur ministère a été complètement bouleversé, simplement parce que, si vous lisez le livre de Jackie Pullinger, là, qui a travaillé dans les bas-fonds de Hong Kong, elle dit ça. Le jour où elle a pu faire appel à ce don-là, ça a bouleversé l'efficacité même de son ministère, même si on peut attribuer son efficacité au don extraordinaire d'elle-même qu'elle avait. Mais alors, je dirais que quand on fait ça, bien, les sujets d'intercession, ils vont arriver de manière assez naturelle. Il n'y aura même pas besoin de consulter peut-être la liste. Moi, je suis pour les listes d'intercession. Je crois que c'est bien. Mais à certains moments, on trouve que prendre la liste, ça a quelque chose d'un petit peu forcé et ce n'est pas toujours satisfaisant. Alors que quand ça jaillit d'une mise en mouvement de l'Esprit Saint en nous, c'est comme une roue qui commence à tourner sous l'effet d'un moulin à eau, par exemple, qui entraîne une croix, qui entraîne une roue plus petite, et qui entraîne encore une autre roue. Il y a tout un mouvement qui se fait, qui prend un certain temps, mais une fois qu'il est fait, alors, je dirais, l'Esprit Saint circule en nous. C'est ce que moi j'appelle l'esprit de prière, ça c'est le meilleur, c'est d'acquérir l'esprit de prière, mais on le perd très facilement, moi je le perds facilement malheureusement. Et quand il est là, je vois la différence. Parce qu'on sait pourquoi prier, on va prier de manière où on sent l'approbation intérieure et ça coule presque de source que le Seigneur va nous exaucer. C'est génial. Bon, je ne veux pas empiéter trop sur le temps de mon frère là qui va parler de l'écoute. Je voulais encore prendre un exemple avec la multiplication des pains, mais je ne vais pas le faire parce que voilà, je vais vous laisser la place et vous prenez un peu de temps pour parler. Alors, je crois que ça vaut la peine de se tenir devant Dieu jusqu'à ce que voilà, le mouvement soit donné, le branle soit donné. Vas-y, continue.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et je continue, je construis sur ce qui a été amené jusque-là, à savoir que dans la prière d'intercession, lorsque je prie comme par le Saint-Esprit, que j'ai cherché la face de Dieu, que je suis dans cet émerveillement ou de cette position du disciple prêt à l'écoute, où mon cœur a été apaisé parce que déjà j'ai trouvé la face de Dieu, parce que déjà j'ai été nourri par quelque chose d'ineffable, sa présence en moi qui est pour mon âme cet oxygène, cette respiration intérieure. Lorsque je suis dans cette position d'un enfant rassasié, lorsque Dieu m'a déjà pénétré comme par sa grâce et que je suis dans un temps propice à l'écoute, je trouve que ajouter à cette prière devant la face de Dieu, la dimension qui nous est rappelée par le titre de l'atelier qui est celle de l'écoute, on gagne en efficacité dans la prière. Alors, je ne veux pas faire de l'écoute ni de la prière un machin bizarroïde, un espèce de survol artistique, bon pour certaines élites, ou juste bon pour certains charismatiques qui prêchent avec conviction les choses liées à l'esprit. Je crois que tout un chacun, quel que soit notre état d'âme, quel que soit nos sentiments intérieurs, quelle que soit notre position dans la prière, quelle que soit notre expérience même de la prière, tout un chacun est capable de cette écoute. Et pas nécessairement besoin d'un long parcours dans la louange, l'adoration et autres pour en arriver à prêter oreille. Jésus a dit, il a employé la parabole du berger et de ses brebis, il a dit, mais les brebis entendent ma voix. Et il parle même dans Jean 10 de cette voix qui leur devient familière. Les brebis du Seigneur entendent la voix du berger. Il a parlé de ses disciples et il a aussi pensé à tous ceux qui rejoindraient le troupeau par ailleurs. Au-delà de son époque à lui, bien sûr, il parlait sûrement aussi de la fusion de l'esprit dont Pierre nous rappelle la vocation. Et cette vocation de l'esprit dans le chrétien régénéré, elle est principalement prophétique. La Pentecôte, elle est significatif en ce sens que Pierre l'a décrit comme la réalisation de Joël 2, l'esprit prophétie donné à chacun, Joël 2 ou Joël 3, ça dépend des traductions, ça fait erreur, Joël 3, 1, 4, ou bien Joël 2, fin du chapitre. Et donc, le Saint-Esprit est donné en sorte que le peuple prophétise, que les brebis entendent la voix du Maître. Alors, j'aimerais pas faire une longue tirade sur cette réalité, je sais pas quelle est votre expérience de l'écoute de la voix de Dieu. Moi, je crois que c'est comme Jean-Pierre a très justement parlé de l'esprit qui nous est donné à la nouvelle naissance. Je crois que lorsque nous rencontrons le Maître, lorsque nous devenons sa brebis, lorsque nous sommes intégrés au peuple de la nouvelle alliance, il nous est donné par le Saint-Esprit cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Et c'est une grâce merveilleuse, c'est un privilège incroyable qu'on méconnaît et qu'on ne s'est pas employé à souhait. Et moi, j'ai réalisé, et je ne suis pas bien exceptionnel pour vous le dire, d'autres sont nettement plus qualifiés ou experts en la matière, je ne suis pas quelqu'un qui a une oreille incroyable, je crois pourtant m'être exercé et découvrir de plus en plus les bénéfices de l'écoute. J'ai découvert que lorsque je suis dans cette position d'intercéder pour X ou Y, pour une situation ou une autre, comment intercéder justement? Que demander dans ses prières? Paul en parle dans Romains chapitre 8, il est soupir inexprimable. Jean-Pierre nous rappelle aussi l'emploi du don des langues dans la prière d'intercession. J'ai découvert que lorsque, dans mon insignifiance, dans ma petitesse devant Dieu, devant ce grand Dieu, où je me tiens, j'ai besoin de faire silence et d'écouter. Et lorsque, par le Saint-Esprit, j'entends, hein, j'entends pas une voix audible. Je vais parler des moyens qui sont ceux de Dieu pour communiquer avec nous. J'aimerais les énumérer pour que ce soit très pratique. Mais lorsque j'emploie ce don manifeste de l'Esprit, celui de la prophétie, des paroles de connaissance, de la révélation, qui nous est accordé par grâce. Paul dit d'ailleurs que parler en langue c'est excellent, mais qu'il aimerait que tous prophétisent. On méconnaît encore l'emploi de la prophétie et la richesse de l'emploi de ce don, notamment dans l'intercession. Lorsque je prête mon oreille au Seigneur, lorsque j'entrevois les choses qui sont à faire dans la prière, je gagne en efficacité. Je ne sais pas comment prier, mais lorsque j'ai l'œil attentif à ce que fait Dieu, lorsque j'ai l'oreille attentive à ce qu'il m'indique dans la prière, alors j'ai comme une percée et je vois des résultats. Et ce n'est pas des choses que je peux produire humainement, ce n'est pas des capacités qui sont les miennes ou les nôtres, humainement parlant. C'est vraiment un don qui nous est fait, qui nous est donné par le Saint-Esprit, celui d'entendre la voix du berger et d'être instruit par lui en sorte que nous prions dans sa volonté. Alors ce n'est pas toujours très facile, mais je crois à cette capacité par le Saint-Esprit que nous avons à découvrir non seulement la voix du berger, mais à devenir familier à l'écoute de cette voix. Que cette voix nous devienne comme familière. J'avais envie de parler très brièvement de Jésus comme modèle de cette prière d'écoute. Vous savez que Jésus, tout dépouillé de son ciel de gloire, a choisi de vivre en tant qu'homme sur la terre, pleinement Dieu, mais pleinement homme malgré tout. C'est Philippiens 2, 5 à 7 qui nous le dit peut-être de manière la plus brillante, la plus explicite aussi. complètement dépendant de Dieu, par le Saint-Esprit, il s'est soumis au Père pour agir sur la terre. Il ne l'a pas fait de ses prérogatives divines, il l'a fait en assumant une pleine humanité dépendant du Père par le Saint-Esprit. Et il le dit très clairement dans Jean à plusieurs reprises. Vraiment, je vous l'assure, c'est juste une citation, au passage il y en aurait d'autres, Jean 5, 19. Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Dépendance, soumission, il était question de la soumission du disciple ce matin, pas juste une obéissance servile, mais des disciples soumis, et Jésus en est le brillant exemple. Alors comment est-ce que Dieu parle? J'aimerais juste énumérer quelques pistes pour qu'on soit très pratique et puis qu'on découvre ces choses. Pour certains, c'est peut-être chose connue déjà, c'est peut-être en route, c'est peut-être même une pratique régulière, gloire à Dieu. Comment est-ce que Dieu parle? Plusieurs méthodes de révélation. J'emploie un manuel, celui de Mike Riches, Écouter la voix de Dieu, cours que j'ai donné ici et là, dans les églises. Et c'est un cours en vogue actuellement en Suisse romande, qui fait beaucoup de bien et qui exhorte les gens, non seulement à la prière, mais à la prière d'écoute, en sorte que notre intercession soit plus efficace, en sorte aussi que notre relation avec Dieu soit stimulée à l'image de cette relation que cultivait Jésus avec son Père. Écoutez la voix de Dieu, Mike Riches, Campus pour Christ. Vous allez sur campuspourchrist.ch et vous trouvez le matériel. Il y a des cours qui sont organisés aussi, je vous les recommande, ainsi que Vivre Libéré, mais ça c'est petite parenthèse. Il y a des gens qui connaissent ça.
Oui, c'est le parfum du Christ. C'est pas la nouvelle méthode.
Non, c'est pas une méthode.
C'est le parfum du
Christ. Non, exactement. C'est l'évangile, en sorte qu'on revienne aux sources et pas juste à une nouvelle mode. Les impressions, ça c'est une première. Jean-Pierre en parlait à sa manière, c'est cette conviction que je prie juste, impression, ce pressentiment que je suis dans la cible, des impressions, c'est pas quelque chose de très précis, mais enfin c'est l'idée, le sentiment intérieur, subtil certes, mais quand même un sentiment, un pressentiment même de quelque chose qui me convainc. J'ai le pressentiment, j'ai le sentiment que c'est une impression, mais elle est spirituelle et je la capte avec mon esprit. Par exemple, dans les actes 20, verset 22, Paul dit « Maintenant, je me voici en route pour Jérusalem, l'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'arrivera. » Il a la forte impression que vraiment le Saint-Esprit le conduit à Jérusalem, il ne sait pas ce qu'il attend là-bas, mais enfin l'Esprit l'y oblige, c'est une impression. Jacques aussi s'exprime dans les actes, chapitre 15, verset 28, « Car il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes. » C'est une forte impression, une intuition, c'est subtil, mais on est capable de dire « Elle vient de l'Esprit, il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes. »
Et à un moment donné, il faut faire confiance.
Dans l'écoute, on entre dans le domaine de la foi. Écouter, c'est croire que Dieu est là en moi, comme l'a très bien dit Jean-Pierre. J'en bondis sur son exposé tout à l'heure, et à quelque part, l'écoute, ça devient quelque chose lié à la foi. Je crois que Dieu est là, je crois qu'il me parle. Dieu parle abondamment, Dieu aime communiquer avec ses enfants. Et nous entrons dans la foi que, oui, nous sommes à l'écoute et que nous entendons réellement Dieu par ce canal des impressions. Deuxième canal, c'est celui des pensées inspirées. Alors, quelle distinction faire entre une pensée inspirée et une pensée normale? Il n'y a pas réellement de distinction, si ce n'est que lorsque je suis en prière, lorsque j'ai prié, lorsque je cultive une relation intime avec le Maître, je reconnais ces pensées inspirées. Alors, un exemple tout pratique, il était question de la prière du matin, j'aime prier aussi, je prends le temps le matin dans le cadre du ministère. C'est vrai qu'on a le temps, il nous faut prendre le temps. Je le disais encore à table tout à l'heure, avant midi, lorsqu'on échangeait à 4 ou 5, Sans la prière, nos ministères ne sont pas féconds. Il ne se passe rien, on s'épuise, on court après le temps ou après les gens, on court après des projets, puis on les conclut mal ou avec peu de succès, parce que la prière n'est pas au rendez-vous. Prendre du temps dans la prière, même si on n'a pas, comment dire, dans l'immédiat, des fruits incroyables, c'est extraordinaire. Les bénéfices en sont grands. Il nous faut vivre nos vies devant Dieu et prendre ce temps de la prière. Alors, lorsqu'on a prié, par exemple, lorsque j'ai prié le matin, je peux vous assurer que les pensées sont claires. Et que je vois clair dans ma journée, je vois clair dans mon agenda, je vois clair dans les projets, je vois clair dans les gens à rencontrer. Je sais, c'est une intuition, c'est même une pensée inspirée. Pour moi, c'est le deuxième canal. Dieu me parle, il me donne des pensées claires. Voilà, vous voyez dire les choses comme ça, c'est comme ça que je les exprimerai. on discerne qu'elles sont inspirées, qu'on est dans le droit chemin. Élie n'a pas fait la rencontre de Dieu dans l'ouragan, dans les tremblements de terre et dans toutes ces choses spectaculaires. Hein. Le peuple chrétien est avide de sensationnels, d'extraordinaires et de grandes manifestations. Je ne dis pas qu'on a tort, il nous faut croire que Dieu est vivant et qu'il peut agir de manière tangible et forte. Mais enfin, Élie a trouvé Dieu dans ce bruissement doux et léger, de sa présence qui a passé. Et toi et moi, sommes-nous à l'écoute de ce vent doux et léger qui passe comme ça dans nos temps de prière ou même dans nos journées de manière impromptue? Sommes-nous de ces hommes et de ces femmes de Dieu qui ont l'antenne dressée vers le ciel pour capter ces messages-là qui passent par nos pensées aussi? Quelque chose d'assez fréquent, en tout cas c'est mon expérience, Dieu me parle souvent à travers, ça c'est pas dans mes notes ici, mais je m'empresse de le dire, il me parle souvent par des cantiques, il me parle souvent par des chants, il me parle souvent par l'écriture, c'est quand même le canal privilégié, hein, j'en parlerai tout à l'heure, l'écriture. Oh purée, quand moi je suis né de nouveau, j'avais 16 ans, je lisais la Bible, je pouvais pas m'arrêter, c'était le Nouveau Testament en particulier, je l'ai lu, mais tout était pour moi, tout me parlait, c'était extraordinaire. C'est le temps des débuts comme ça, mais je me rends compte que ces temps-là, je peux les appeler de mes voeux, je peux les appeler dans la prière, je suis encore, quelqu'un qui rencontre Dieu en particulier par la lecture des textes bibliques. Mais enfin, ce que je voulais dire de manière assez fréquente, Dieu emploie, en ce qui me concerne, des images. C'est le troisième canal. Image, c'est tout ce que c'est une image. Juste une captation d'écran comme ça. C'est assez symbolique, c'est pas toujours clair, mais en tout cas, lorsque Dieu me parle à travers une image, comme ça, quelque chose que je capte, comme on pourrait dire une photographie, mais mentale, qui apparaît. Alors, je n'ai pas immédiatement l'interprétation, il faudrait la demander à Dieu dans un deuxième temps, mais en général, elle me parle. En général, je sais ce que Dieu cherche à communiquer à travers ce moyen. Et lorsque nous sommes en prière, lorsque nous sommes dans l'écoute, en tout cas, c'est mon expérience, souvent, les gens reçoivent des images. Et c'est extraordinaire. En tout cas, mon expérience dans la relation pastorale, je ne sais pas appeler ça relation d'aide, n'étant pas un thérapeute, mais dans l'accompagnement pastoral, lorsque je propose à celui ou celle que j'entends, qui me raconte sa vie ou son besoin, dire écoute, on va prier ensemble, on va écouter Dieu. T'inquiète pas, on prend 2-3 minutes de silence, on va demander la pensée du Seigneur dans cette situation. Tu me fais part de ton besoin. Maintenant, je ne suis pas ton sauveur, je ne le dis pas ainsi, mais je sais pertinemment que je ne suis pas le sauveur de la personne. Jésus est là, c'est lui le sauveur. Suis-je à l'écouter? Bien oui, on se met à l'écouter. Et là, Dieu parle. Et souvent, c'est dans le mille, quoi. Et c'est du domaine de la foi, parce que tu dis, écoute, il me semble que... Hein, tu ne dis pas, Dieu, l'Éternel m'a dit, ainsi en est-il. Hein. Tu dis, écoute, il me semble que j'ai l'impression, je te soumets ce que je reçois, et toc, souvent, c'est dans le mille. Une image, rien qu'une image. Ça fait mouche, la personne se sent rejointe. Elle sait souvent ce que ça veut dire. Toi, tu ne sais pas, mais tu as transmis dans la foi. Et c'est très beau de voir comment Dieu répond aux besoins des gens lorsque nous sommes d'accord de lui prêter notre oreille. Voilà, troisième canal, donc des images, des visions. Alors, si c'est des termes un peu barbares, et puis ça a fait craindre parfois les chrétiens, plus classiques ou plus conservateurs. C'est vrai que les charismatiques, des fois, on a employé un jargon qui soit qui faisait hurler de rire, soit qui faisait hurler de peur. Hein. Mais enfin, les visions, c'est pas un grand machin. Des fois, on entendait des gens dire « Oh, j'ai eu une vision !» Alors, on s'imagine la vision d'Ézéchiel, là, je peux. Le gaillard, il parle de quelque chose de grandiose, mais non, une vision, qu'est-ce que c'est? C'est juste plusieurs images à la fois, comme un petit film. C'est pas bien difficile à capter, c'est juste plus qu'une image, c'est quelques images, quelques séquences comme ça qui se déroulent. Et Dieu te parle, non pas par une image, mais par un petit film. C'est tout bête. Alors ça peut être peut-être plus impressionnant, mais en règle générale, j'ai pas eu de vision moi-même, mais les gens qui m'en ont parlé ont su m'en parler avec beaucoup de respect et comment dire, bien séance. Ils employaient pas des termes barbares, ils étaient des grandes personnes aguerries dans ces choses. Et là aussi, on sait que Dieu a parlé par des visions à ses prophètes, Daniel entre autres, mais d'autres. Ici, j'ai Daniel 7, 2 à 3, c'est un vrai. Une référence. On parle d'Ézéchiel et d'autres qui ont bien sûr vu des choses incroyables. Les extases, voilà encore un de ces termes barbares, mais qu'est-ce que c'est une extase? On a l'exemple de Pierre, hein, qui tombe en extase sur sa terrasse, alors que Corneille a lui aussi reçu de Dieu de s'approcher de Pierre. Bref, c'est une rencontre miraculeuse. Hein. C'est l'Esprit qui emploie les grands moyens pour faire comprendre à Pierre qu'il a à recevoir ce païen, que Dieu veut lui faire grâce, mais pas à considérer cette personne comme impure, mais qu'elle est pure. Hein. Et l'Évangile se répand jusque chez Corneille et à toute sa maison d'ailleurs. Enfin bref,
si je peux me permettre, je trouve un point très important. On vient de vivre la pente, l'ascension. Et Jésus qui a rappelé qu'un célèbre grand jour, disant vous serez mes témoins en Judée, mais aussi dans toutes les nations.
C'est ça, oui.
La parole écrite dans ces mots de Jésus, donnée avait été donnée. Vous serez mes témoins parmi les païens.
Oui.
Et à Pierre, pour ça, et je trouve génial de se dire, mais pour ça, pour nous aussi, on a besoin de vision. Pourtant, c'est écrit. Pourquoi il y a besoin de vision? Ben là, c'est Pierre, par exemple, aussi.
Toi, Pierre, il a eu besoin d'une vision. Ouais. Il a eu besoin d'expérience.
Et de réinterpréter le Lévitique.
Alors ça, c'est sûr, hein, à partir du Christ, les choses
Quoi faire?
En changement.
On changerait les gens aujourd'hui, hein. Ouais. Les homosexuels en particulier. Il faudrait peut-être aussi qu'on nous reçoive une vision nouvelle de ces gens-là. Pardon, oui. Mais c'est quelque chose qui me turlupine très très fort.
D'accord. Oui. C'est un cas pratique.
On va prendre après la question.
Une interpellation. Voilà, je me dépêche pour ne pas retenir plus longtemps votre attention. Peut-être que ce serait bon qu'on ait un échange. Extase, qu'est-ce que c'est? C'est une vision à laquelle je prends part. Pierre, littéralement, voit cette nappe descendre avec tous ses animaux purs et impurs. Il prend part à ce qu'il voit. Ça ne m'est pas arrivé non plus. Par contre, les rêves, encore un moyen que Dieu emploie pour nous parler. J'ai clairement entendu Dieu par le biais de rêves à plusieurs reprises. Et là aussi, les évangiles en sont truffés, en particulier au début de l'évangile de Luc, notamment en ce qui concerne Joseph. Il y a d'autres reprises aussi, évidemment. Visitations d'anges, là, je les énumère. C'est là aussi... Il faut le dire parce que c'est biblique. Bible en main, on sait que les anges sont apparus à Jacob, Abraham et Sarah, les parents de Samson, Zacharie, et puis Marie, la mère de Jésus. C'est dans les évangiles. Alors, il faut quand même aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de parler de ces choses. Une voix audible, Saul, a entendu Jésus qui lui est apparu. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il l'a entendu, ça a été bouleversant. Et puis j'ai dit les Écritures, la Bible, moyen privilégié, je crois, de connaître Dieu, de l'entendre, nous répondre, nous indiquer la voie, nous rappeler à lui et donner du sens à nos vies. La parole, c'est quand même extraordinaire, la manière dont Dieu parle à travers elle. Ce n'est pas juste un bouquin de connaissances théologiques, c'est un livre que Dieu emploie pour s'adresser à tout un chacun. Et à ceux qui méconnaissent la théologie de A à Z, je veux dire, en Afrique, on se rend compte que les gens ont peu d'instruction, et pourtant, pour y avoir été deux fois, je me suis rendu compte de la qualité de relation que ces gens entretiennent avec Jésus et la manière avec laquelle Jésus leur parle à travers les Écritures. Ils n'ont aucune idée de toute la foison d'activité théologique qu'on a construite autour de la parole. Mais la parole, elle reste première, et puis ils entendent Dieu parler à leur vie à travers elle, et c'est extraordinaire. Bref, et puis finalement, d'autres personnes. Souvent, on pense « Dieu me parle à moi, il ne parle pas aux autres ». Dieu emploie les circonstances pour me parler aussi. Dieu emploie les autres pour me parler. Alors pas de leurs conseils tout pragmatiques, même si parfois c'est éclairant, mais les gens qui pensent donner des conseils faciles, souvent sont à côté. Les amis de Job, bon, la parole facile aussi, se sont trouvés à côté de leur pompe. Et nous aussi, parfois on a des conseils faciles. Méfions-nous, retenons notre langue, soyons prompts à l'écoute de Dieu. Et parlons de sa part plutôt que de dire des choses qui n'ont ni queue ni sens. Hein. Faisons attention à notre manière de nous exprimer pour conseiller les autres. Mais lorsque nous tendons l'oreille, Dieu nous emploie dans ce service du ministère prophétique pour parler de sa part à l'Église et aux autres. Et puis finalement, Je termine par là, parce qu'il faut, aussi le signaler. Et Jean-Pierre parlait de l'émerveillement devant la beauté de la création. Oui, Dieu emploie la création, Dieu emploie la nature, pour nous parler de qui il est, et pour peut-être susciter cet émerveillement qui donne naissance à l'adoration et à la louange, comme tu nous as parlé tout à l'heure, Jean-Pierre. Voilà, je m'arrête ici. C'est beaucoup en peu de temps, en faire avec le temps qu'on a. Peut-être que vous avez des questions, des réactions, des commentaires, des expériences aussi. Hein. Vous avez des trésors à nous.
Essayons de vous expliquer.
Communiquer.
Le plus brièvement possible, comme ça, plusieurs peuvent intervenir.
Alors, moi, j'ai une motivation pour que je vienne ici, tout droit. Premier. Parce que depuis. Ouais, ça fait 40 ans hein, que je suis convaincue de tout ce que vous avez dit. Mais j'ai jamais eu l'occasion, partout où j'ai été conduite à travers mon curriculum vitae, j'ai jamais eu l'occasion d'être dans un groupe où elle était suffisamment intime pour oser se dire qu'on parlait en langue, et j'ai jamais eu l'occasion de voir quelqu'un, j'ai jamais osé le faire à haute voix, et j'ai jamais trouvé quelqu'un qui puisse interpréter. Alors, voilà. Comment on fait ça quand on est maintenant pasteur dans une église réformée pour commencer là? Moi, ça me serait très très pratique, une fois, que d'avoir des choses très explicites dans la conduite en tant que sous-pastorelle du grand berger.
Oui, oui, oui.
J'aimerais vraiment qu'il me donne des indications très concrètes. Bon, il m'en donne aussi par des rêves, par des intuitions.
Là, c'est quant à la pratique des langues, en
particulier. Mais des choses par rapport aux autres gens qui sont là.
Oui, et puis dans le groupe des intimes de la prière, parce que dans le village où j'ai été suffragante, il y a des femmes qui prient, mais depuis des années, elles ont eu des réponses extraordinaires. On a demandé des WC pour le temple, on les a eues après 20 ans de prière. Bon, vous allez dire c'est trivial, mais c'était la preuve que Dieu s'intéresse à nos besoins les plus intimes. Et que beaucoup de personnes âgées ne venaient pas au temple parce qu'ils ne pouvaient pas courir. Voilà, bon. On est pieds sur terre.
Oui, mais Dieu se préoccupe de ces petites choses.
Et moi, j'aimerais tellement que ces fidèles femmes voient plus de choses. Et puis qu'on puisse prophétiser entre nous, que le Seigneur nous.
Ouais. Moi, je peux que vous recommander le manuel du cours de Mike Riches, dont vous avez pris note, Écoutez la voix de Dieu. Commandez-le sur campusbouclis.ch, lisez-le, il traite de la prophétie avec beaucoup d'équilibre, avec beaucoup de clarté aussi, il traite de la gestion du prophétique aussi, de manière complète et de manière vulgarisée, c'est pas complexe. Sinon, en Bible en main, Corinthiens 14 nous renseigne quand même sur cette pratique. Après, on entre dans le domaine de la foi. Hein. Écouter la voix de Dieu, oser transmettre ce qui nous semble être donné pour le soumettre à l'évaluation du groupe. Prier dans ce sens, on n'a pas toujours besoin de soumettre, en sorte qu'on dise « il me semble que le Seigneur me dit ». Je perçois ces choses intuitivement dans la prière, par l'esprit, et je les prie, hein, si on est dans l'intercession. Mais bon, si on part de zéro, moi je recommande notamment ce manuel, parce que je crois qu'il est, il est bon, il saura vous aiguiller, vous aider, à transmettre aussi ses pratiques aux autres.
Je le recommande aussi parce que dans un sens, il est élémentaire. Il est plus un manuel sur la prophétie que sur la prière, en fait, hein, que sur l'écoute.
Les deux premiers chapitres sont sur l'écoute, puis après, c'est comment j'ai
fait, c'est sur la prophétie. Ouais. Mais moi, je dirais, il me semble que ce qu'il faut faire avec un groupe comme ça, c'est se centrer sur le Seigneur. Et c'est dire, mais après tout, est-ce qu'on est d'accord de lui donner toute la liberté d'expression au milieu de nous, même des choses aussi surprenante que certains l'ont vécu dans la Bible, et en particulier à la Pentecôte, mais aussi à d'autres moments. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si ces femmes-là sont pleines de piété, sont vraiment les aimes de Seigneur, elles vont dire oui, elles ne vont pas dire non. Et ensuite, alors, vous attendez à tout. Il faut pas parler en langue, pas forcément. Il faut pas parler des langues spirituelles. Oui, c'est bien des enseignements, bien entendu. Mais je veux dire, on ne peut pas comme ça balancer tout d'un coup un bateau dans un cercle réformé. Moi, je suis un ancien pasteur réformé, je sais ce que c'est. avec des gens qui ne s'y attendent pas, qui risquent de nous prendre pour des fous, je ne sais pas. Donc,
non, non, ils sont, si, sont au courant que ça existe.
Ah oui, d'accord.
Voilà,
ouais.
Mais ils attendent aussi que ça leur tombe dessus.
Mais alors justement, il faut le délivrer des gens comme ça. Parce que je sais ce que c'est. Dans certaines dénominations, il y a des principautés spirituelles, il y a des autorités spirituelles.
Oui.
C'est pas de là, c'est très concret. Oui. Et il faut résister à ça en disant, je prends dans ma tradition ecclésiastique, je prends ce qui est de Dieu, parce qu'il y a des choses de Dieu, et je sais ce que c'est, ça correspond à l'écriture. Mais il y a des choses qui sont venues de la chair, héréditairement au cours des siècles.
La chair.
La chair. La chair.
Jour de la chair.
Parfois, oui.
Sans eux. Donc l'homme charnel, ça s'est accumulé au cours des siècles. Et l'ennemi a cristallisé ces choses. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle les dominations, des principautés, des autorités, des puissances. Et ça, il faut résister à ces choses-là en disant, on n'est pas d'accord. Et par contre, ce qu'on veut, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le seul esprit légitime qu'on doit avoir. Et je crois que si on s'attend vraiment à ça, le Seigneur, il va répondre. Et à un moment donné, si par exemple, c'est vrai que les langues, c'est plutôt le don pour soi-même, quoi. C'est pas un don tellement pour l'assemblée. Ouais, ouais, ouais. Mais il va libérer d'autres choses. Et même quelqu'un qui voudrait prier en langue avec interprétation, ben pourquoi pas. N'importe quoi. Mais moi, je vous recommande un livre qui est très intéressant, qui n'est pas très connu, je ne sais pas pourquoi, mais que je trouve fabuleux. La prière d'intercession d'un gars, un Américain, qui s'appelle Dutch Sheets. Il s'exprime de manière, c'est les éditions Vida, de manière à la fois assez recherchée, parce qu'il va rechercher les racines hébraïques et grecques des mots qui correspondent à l'intercession. C'est assez fouillé. Et en même temps, il raconte alors des exaucements de prière. Alors, ils ne cherchent pas le spectaculaire, mais il y en a certains, c'est gratiné, je vais vous dire, c'est impressionnant. Et puis en même temps, il est drôle, il a des trucs, il est marrant. Ce qui aide aussi.
C'est encore une.
Alors, voilà, si vous pouvez le trouver, c'est aussi pas mal ça.
Merci.
Oui.
Par rapport à ce que vous disiez. Alors, il me semble qu'en milieu réformé, ce qui passe bien, c'est les cours alpha, où le parler en langue n'est pas introduit en tant que tel, mais le baptême du Saint-Esprit est alors là très net, et puis après, il y a tout ce qui suit, sans mettre de priorité ou de hiérarchie ou quoi que ce soit. Et puis, moi,
on
je pense
déjà à... vécu deux, trois.
Je pense à quelque chose, on nous dit aspirer
au
don.
On est des durs à cuire, nous.
Mais il y en a des plus durs que ça. Seigneur, j'en étais... Et puis, qu'on nous appelle d'aspirer au don, de rechercher les dons. Le don d'interprétation, c'en est un.
Oui.
Donc, on peut aussi demander au Seigneur humblement, mais on a besoin de ce don d'interprétation, s'il te plaît, Père, pour voir nos besoins. Et puis, peut-être qu'il y a une de ces braves dames du groupe qui, tout à coup, aura quelque chose qui sera un début d'interprétation.
Tout à fait. Là, on est en train de... C'est très intéressant, d'ailleurs, de parler un peu des dons spirituels, c'est très bien. Mais sur le plan spécifiquement prière, puisque c'est quand même le sujet, est-ce qu'il y en a qui auraient eu des questions spécifiquement sur la difficulté de prier, le désir de... Ouais, ou les blocages?
Moi, j'ai juste une remarque, quelque chose qui m'a touché quand tu parlais, et puis une question juste derrière. Ce qui m'a beaucoup touché par rapport au ministère d'Élysée, tu disais quand il rencontrait des personnes, il disait « Que puis-je faire pour toi ?» Cette dimension d'écoute. Et je me demandais justement, enfin c'est pas ma question, mais je me faisais cette réflexion en disant « Mais il a cette même disposition par rapport aux gens qu'il rencontre qu'avec Dieu.
Oui.
Il passe du temps à écouter Dieu.
Oui. »
Et ça lui permet après d'avoir du temps pour écouter, comme Eti Oberheim ce matin, ça m'a beaucoup touché.
Oui.
Cette dimension, il écoute Dieu, ça va développer sa capacité d'écouter l'autre. Et puis, parce qu'il aura pu parler peut-être aussi à Dieu, quoi, je sais pas, et puis il n'aura pas besoin d'ensevelir l'eau sous ses paroles. Enfin, ça m'a touché, je voulais juste le partager. Et puis, quand tu disais toutes ces étapes, faire taire le bruit, etc., moi c'est vraiment quelque chose, je peux témoigner que c'est vraiment comme ça que j'ai pu grandir dans ma vie de prière, mais moi là où le bas blesse, c'est vraiment décider de s'y mettre. Parce que j'ai des jeunes enfants, je m'occupe d'eux pour le petit-déj. Donc, c'est voilà, dès qu'elle est levée, la petite, elle vient, crac. Enfin, on a voulu dire va dans ta chambre, elle va y aller, mais au bout de deux minutes, elle revient.
Ouais.
Donc, concrètement, c'est difficile. Alors, je m'isole, j'ai un lieu pour moi, etc. Mais elle vient gratter à la porte. Bon, j'essaie de le faire après, avant qu'elle se lève, mais elle se lève de plus en plus tôt. Et puis moi, avec des conseils qui finissent tard, je suis crevé et tout. Je me dis bon, est-ce que je me lève encore une demi-heure plus tôt? Enfin, je dois dire que c'est aussi l'aspect paresse peut-être. Mais c'est un réel combat pour moi. Bon, Cédric, ça fait des années qu'on prie ensemble et puis qu'on prie aussi là-dessus. Mais pour moi, c'est un réel combat. Une fois que j'y suis, c'est bon, c'est bon. Quoi. C'est, voilà. Mais c'est vraiment cette discipline de s'y mettre. Et puis en particulier quand je n'ai pas d'horaire, les vacances ou les week-ends, c'est encore pire. Voilà. Donc, bon, est-ce que c'est juste une affaire de caractère et puis il faut le faire encore un peu plus fort? Je ne sais pas.
Oui, il y a des périodes de la vie. Quand on a des petits-enfants, c'est vrai que c'est quand même plus difficile qu'à d'autres périodes de la vie. Donc il y a des périodes de la vie qui ne sont pas toutes au même niveau. De ce côté-là, il faut l'admettre. Mm-hmm. Et puis, ça ne doit pas forcément être le matin. Il y a peut-être des enfants, ils font peut-être aussi cet après-midi ou quand ils vont à l'école. Ben,
mais moi, une fois que je suis parti, je ne m'arrête pas. C'est pour ça que le matin, c'est mieux pour moi. Non, mais parce que, comme tu disais avant, moi, après, la machine se met en route. Vrai. Et puis, pour moi, c'est compliqué de m'arrêter. Après, je tombe
c'est
de sommeil,
bien
c'est bon.
De faire. Moi, j'ai fait l'expérience. Enfin, aussi, sûrement. Quand on prend des jours à part, mm-hmm. un jour, deux jours, éventuellement trois jours, avec jeûne ou pas de jeûne, ça fait une différence. Hein. Ça fait une différence. Mais c'est la volonté de s'y mettre, parce que moi aussi, de prendre six jours à part, je m'étais dit à un moment donné, je prends au moins un par mois.
Moi, il y a vraiment cette idée de la manne, il y a besoin d'y aller tous les jours.
Oui.
C'est-à-dire que, oui, faire des retraites comme ça, peut-être tous les six mois, trois, quatre jours, ouais, ça, oui, mais dans le day-to-day, comment, quoi? Ah voilà, je ne veux pas juste des excuses, je veux pas de la culpabilité, mais je sais pas.
On est tous les mêmes.
Hein. Ouais. Ouais. Ça, c'est un sujet d'écoute, de dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie par rapport à la prière du matin? Parce que tu portes léger, avec un fardeau léger.
Ouais.
Parce que le Christ se met sous un poids.
Oui, ça c'est vrai.
C'est un sujet d'écoute important.
Ça, c'est quelque chose que j'ai pu décharger, c'est bon, mais pendant des années, c'était ça.
Moi, je me demandais si... Je ne sais pas si c'est une clé à ça ou pas, mais comment est-ce qu'on considère la prière comme faisant partie de notre ministère? Alors c'est difficile de compter les heures, moi j'essaie de savoir à peu près où j'en suis, mais d'essayer de me dire ça fait partie aussi de mon travail. Alors il y a une parce que, et ça, mais c'est à la fois aussi un renoncement, hein, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'heures où je ne fais rien d'autre. Que de prier et puis d'écouter Dieu. Puis, moi, le combat,
est-ce que tu arrives à caser 6 heures?
Moi, j'arrive à caser. Alors,
excuse-moi, caser,
aussi,
mais.
Non, mais tu sais aussi que c'est aussi un combat pour moi, des fois. Hein, mais je fuis. Il y en a qui ont fui au désert. j'aide aussi, j'ai aussi des petits-enfants le matin, la mise en route, etc. Mais après, la première demi-heure ou la première heure à mon bureau, avant d'allumer mon ordinateur, j'essaie de la consacrer à la prière. Avant de commencer autre chose. Alors, voilà, parce qu'on a des fois un peu ce débat entre prière personnelle, prière pour le ministère, c'est souvent mélangé. Mais pour moi, ça m'aide de savoir que ça fait aussi partie de mon travail. Ouais.
Mais quand tu as du temps partiel, ça c'est hyper dur. Ouais, parce que tu peux pas.
J'ai constaté que selon notre emploi du temps, Dieu fait grâce. Il sait si on a le temps ou non. Mais d'autant plus si on a le temps, parce que c'est notre job à 100% peut-être. Pasteur, la prière, elle est un impératif. Et si je. Non, mais. Si on a moins de temps, moi, je sais que Dieu fait grâce. Et ici ou là, si tu le veux, il y a un moment. Je veux dire, au lieu de scotcher à la télé le soir ou même d'allumer automatiquement le journal de 20h, c'est sûrement pas ton cas. Moi, j'ai plus de télé, je veux dire, j'ai plus de temps.
Ouais,
je suis sûr que lorsqu'on veut, c'est bête à dire parce que ça paraît tellement barbare, mais lorsqu'on veut, on peut. Et je sais que si on prie, si on n'a pas cette détermination, il y a tout qui va se mettre en branle, il y a tout qui se met en piste, et puis finalement, on ne trouve plus l'occasion de s'arrêter. Je sais ce que ça veut dire. Je compatis parce que c'est aussi mon problème. Mais lorsqu'on a ce privilège d'être dans un ministère à plein temps, je pense que c'est presque... C'est du temps qu'on perd parce qu'on ne fait rien d'autre, mais c'est du temps qu'on regagne deux ou trois fois après. Quoi. Je ne peux que vous encourager tous.
Sur les prémices, c'est prière du matin, parce que les prémices, c'est ce qui vient.
Moi, je crois, oui.
Quand les prémices sont simples, la pâte l'est aussi. Ouais. Ouais. Mais alors, tu poses une bonne question. Mais alors, moi, je vraiment, expérience faite, c'est quand même de pas mal d'années de ministère derrière moi, je réponds sans complexe et avec autorité, oui, amen. Ça fait partie du ministère, y compris ta prière personnelle. Amen. Ça fait partie.
Mais si on ne prie pas,
c'est la partie principale du ministère.
C'est juste.
Et c'est la partie principale, parce que notre ministère va être ce qu'est notre relation avec Jésus. Et bien sûr, ce qu'est notre relation avec les autres. Ça va être l'exact reflet. Donc décomplexe-toi totalement avec ça. Il n'y a pas besoin de compter les heures, parce qu'il n'y a pas de règle. Une demi-heure ou 20 minutes de prière intense peut être plus profitable que 5 heures de prière à la journée. Mais des fois, c'est 5 heures de prière qu'il faudrait pouvoir faire. Et on ne le fait pas parce que, bon, c'est quand même pas si évident. Mais c'est possible. Et ça, bien sûr que ça fait partie. Moi, je me rappelle que j'étais plus jeune pasteur, dans mon agenda, quand je voyais des pages blanches, puis qu'on proposait des rendez-vous, des activités, je disais, ah ouais, là, je peux. Et après, je me suis dit, ah. Et puis les rendez-vous avec le Seigneur, ils sont où dans mon agenda? Et je devrais avoir plusieurs parties de mon agenda blanc, parce que c'est réservé pour le Seigneur, je ne prends rien d'autre.
Une image qui m'a beaucoup plu dernièrement, c'était un rabbin, quelqu'un de la communauté israélite de Zurich qui a écrit dans la NZZ, que lui, il n'était pas un rabbin sur les rails, qu'il était comme un trolleybus. Et j'ai l'impression que quand on a la chance de pouvoir prier le matin, c'est comme si on montait le pantographe. Puis après, on n'est pas toujours dans les rails, on est bousculé toute la journée, mais on est toujours branché. Et moi, j'ai la chance d'avoir deux ministères, c'est-à-dire pastoral et domestique. Et là, des fois, c'est très stressant. On passait de l'un à l'autre, on fait du gymkhana, mais on a toujours le pantographe. Et puis des fois, c'est...
Il y a un petit livre de Bounce, je ne sais pas si vous connaissez Bounce. Il est écrit sur la prière, un chrétien américain, je crois, du fin du 19e ou début du 20e siècle. Alors, en rapport avec la prédication, il montre l'importance d'avoir rencontré le Seigneur avant de prêcher. Bien sûr, il y a la préparation technique, exégétique, on est d'accord. Mais c'est primordial. Et ça, c'est bien. Mais c'est vrai que quand on a mis en branle ce mouvement, après, moi, je comprends ce que l'apôtre Paul a voulu dire quand il a dit « prier sans cesse ». Ça a été une énigme pour beaucoup d'hommes de Dieu. Hein. Si vous avez lu le récit du petit pèlerin, le russe, il cherche dans tous les monastères, il dit « mais comment on peut prier sans cesse ? Pas possible. » Finalement, il tombe sur des gars qui lui enseignent les icasmes, la prière du cœur, on dit. Mais en fait,
c'est quelque chose comme une attitude
interne. Il y a à la fois le besoin de prière concentrée qui nécessite une discipline, mais une fois qu'on a, moi je pense, pris ce temps-là, ma femme elle me dit, moi je prie quand j'ai les mains dans l'évier, je fais la vaisselle, c'est vrai.
Après ça se poursuit.
On a l'esprit de prière qui continue pendant qu'on conduit sa voiture, même pendant qu'on parle avec quelqu'un, l'esprit de prière continue. Et ça c'est l'idéal.
Je peux juste ajouter une petite chose. Pour dire, vis-à-vis de nos différents emplois du temps, je veux dire, on parle de la prière du matin comme étant idéale, mais à chacun, je crois qu'il nous est réservé la tâche de questionner Dieu. Quand c'est que je veux prier, quel est ce moment privilégié que tu agendes pour moi dans la journée de travail? Si c'est pas le matin parce que tu as des petits-enfants, ben Dieu sait, il te demande pas de te lever 2 heures avant, d'avoir des petits yeux, puis d'être accusé parce que tu te lèves trop tôt le matin alors que tu as eu le conseil le soir. Mais où dans ta journée tu peux, parfois, même si c'est dur, et ce sera dur.
Quand il faut la sieste, là, il faut le faire.
Tu vois, et franchement, tu vois, on est tous en lutte avec ça. Que tu trouves toi-même ce moment propice à l'arrêt. Parce que...
Un des plus puissants dans le ministère des guérisons, c'était Smith Wigglesworth. Vous avez déjà entendu son nom. Puis on lui demande un jour, mais vous, avec votre ministère de guérison, vous, donc, vous priez énormément. Vous êtes un de ces hommes de Dieu qui priez 3 heures par jour, certainement. Ah, moi, pas plus d'un quart d'heure. Comment ? Vous ne priez pas plus d'un quart d'heure ? C'est pas possible. Je lui ai dit, oui, mais toutes les heures, je reprends un quart d'heure. Donc on peut exploser aussi.
Oui, exactement. Tu aimerais Tu voudrais clore ?
Oui, c'est vrai qu'on va arrêter quand même. Et on pourrait peut-être quelques prières qui montent aussi, peut-être de vous aussi. Des prières plutôt brèves. Et bien dans la foi.
Seigneur, moi j'ai cette parole de tes disciples qui me reviennent à l'esprit. Seigneur, apprends-nous à prier.
Amen.
Amen. Amen. Je dis même, Seigneur, qu'on peut prier par des soupirs.
Oui.
Amen. Et merci de nous apprendre à prier.
Amen.
Amen.
Et merci pour la liberté que nous avons finalement de t'approcher n'importe quelle heure, avec n'importe quel sujet.
Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et véritable et tu l'as prouvé dans chacune de nos vies.
Amen. Seigneur, merci parce que tu ne nous appelles pas tes serviteurs mais tes amis. Et on peut venir dans ta présence et vivre cette relation d'amitié avec toi.
Seigneur, je réalise aussi que ce n'est pas simplement en langue ou comme ça, mais c'est aussi par, comme quelqu'un l'a dit, les soupirs mais aussi les pleurs. C'est un cadeau que tu nous fais de pouvoir lâcher la pression devant toi.
Oui, Seigneur.
Je te prie de répondre aussi aux questions qui ont été posées dans ce groupe, Seigneur. De manière à ce que nous puissions avoir cette réponse. Qu'es-tu en train de faire, Seigneur? Je prie à Jésus. Je fais ce que je vois le Père faire. Seigneur, qu'es-tu en train de faire dans nos vies? Que tu vas faire au travers de nous, entre nous. Et je prie en particulier pour chacun et pour David qui a exprimé cette question claire qui nous concerne tous, mais que tu lui répondes à lui particulièrement. Il a osé. Réponds-lui, Seigneur. Amen.
Amen. Alléluia. Dieu dit, Seigneur, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous voulons ardemment, Seigneur, venir à ta rencontre dans la prière. Viens à notre aide, Seigneur. Amen.
Amen. Oui, Seigneur, merci pour nos frères et sœurs. Nous tous ici, présents cet après-midi, je veux te demander, Seigneur, que tu libères en nous une joie de prier, que tu nous donnes une onction nouvelle, une chance nouvelle, des temps favorables ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, que tu réactives en nous, Seigneur, ce besoin et cette volonté de te rencontrer, toi, et d'exprimer ce que tu veux mettre en nous dans l'esprit. Seigneur, nous croyons que nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est plus le régime de la lettre, c'est le régime de l'esprit. Nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et nous croyons que tu veux libérer ce fleuve. Gloire à toi. Et oui, bénis chacun de mes frères et sœurs ici, Seigneur, qu'ils voient une différence. Que tu nous aides, parfois on n'a pas toujours la volonté, mais tu nous prends les devants, tu amorces la pompe comme dans un siphon, on commence par aspirer et le courant arrive après. Seigneur, que ça soit un peu comme ça.
Amen.
Gloire à toi, Seigneur. Bénis chacun de nous. Amen.
Amen.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.